Les Papous en public à l'ENS de Lyon, première partie. En piste, Françoise Tressard et la belle équipe. Alors voilà, ça se passait le samedi 2 avril dernier. Nous étions les invités des étudiants de l'École normale supérieure de Lyon, avec le soutien du CROUS, des associations Transistor et Institut, et d'un groupe d'anciens élèves qui nous avaient déjà reçus dans les murs de l'Amphimérieux il y a presque 10 ans, comme le temps passe. La salle était composée d'un joyeux mélange, comme toujours au Papou, étudiants ou pas, lyonnais ou de passage, jeunes parents avec enfants, des enfants qui ont participé d'ailleurs au choix des 10 mots pour des histoires, et nous en étions ravis. Remerciements chaleureux à tous, et particulièrement à la bande des 4, à l'initiative de notre récréation lyonnaise. Alors, il y a Adrienne, étudiante en philosophie, Marjolaine, étudiante en histoire, Jérémy, pour la littérature, il étudie les poètes de la Pléiade et notamment Étienne Jodel. Le 4e, c'est Léonard, représentant les mathématiques. Pas de matheux chez les Papous, mais un philosophe aquarelliste, Patrice Caumont, un agrégé de lettres modernes, Patrick Beignet, une spécialiste de la mer et des ports, Odile Conseil. Elle a d'ailleurs lancé son festival de films Ciné Salé l'année dernière. Un poète, notre poète, Patrice Delbourg, un Européen convaincu, Lucas Fournier, Serge Joncourt, écrivain, scénariste, adepte des voyages en train, et Gabrielle Godard, chanteuse et comédienne. Il est 19h, les lumières de l'Amphimérieux s'éteignent côté salle et nous entrons en scène. Les Papous à l'ENS de Lyon, première partie très, très shakespearienne, parce que nous nous inscrivons dans un week-end Shakespeare sur France Culture. On va réviser, hein, parce que comme ça, on ne se souvient pas forcément de tout ce qui concerne Shakespeare, si. Oui. Ah oui, on est un peu tiède là. Oui. Alors on va réviser avec la publipapocité de Patrice Caumont, Les Parfums de Shakespeare. Avec dans le rôle de Juliette, Odile Conseil. Dans celui de Patrice Caumont, non.
Non.
Dans celui de Desdemone, dans celui de Desdemone, Patrice Caumont. Alors, il a des très beaux graves dans la voix, Patrice Caumont, mais il saura faire la voix sensuelle et dévorante de Desdemone. Et puis, pour les chansons, Gabrielle Godard et Patrice Caumont également. Juliette, Odile.
Hello, dear Desdemone. Quelle joie de vous accueillir at home.
Oh, je t'en prie, Juliette. Just call me Simone.
As you like it. Va pour Simone et Juju pour moi. Après tout, comme je l'ai déjà dit au premier acte, qu'est-ce qu'un nom ? La rose embaumerait tout autant si elle en portait un autre.
Ben justement, je trouve que ça embaume un max chez toi. Ça ressemble à la Louisiane, à l'Italie, on dirait le Sud.
Oui, c'est cool, Simone, avec la nouvelle gamme des parfums d'ambiance William. Toute la maison fleure bon, du sol au plafond. Et pour l'entrée côté cour, j'ai choisi le parfum côté jardin. Ça vient de sortir.
Ah, c'est fou, Juju, ce jus, ce jasmin, ce magic smell. On se croirait en garden party à Vérone. Un jardin capulé, il n'y a pas plus beau. To forget the fog. Tu songes à une nuit d'été.
Mais passons au salon. Sens-tu la différence de fragrance ?
C'est flagrant. Ce parfum de sous-bois, de fougère, une fraîcheur toute forestière. Avec Shakespeare va, tout sent bon. Ça parfume le living et parfume la maison. Le corps, quand ça transpire, faut le déodorer à coups de spray. Faut l'asperger, et c'est parfait. Avec Shakespeare va, tout transpire. L'autre beau Roméo, qui suait sang et eau, l'autre qui transpirait, en trempant tous les draps, à coups de spray, à coups de stick, même sous les bras, leur parfum vanillé sentait bon le déo. Avec Shakespeare, oh, tous respirent.
Un thé, peut-être ?
5 o'clock, c'est l'heure où en royauté tout se tasse.
Follow me to the kitchen, Simone.
Justement, Juju, contre les odeurs de cuisine, tu fais quoi, toi ?
Fastoche. Je passe un coup d'éponge d'une nuit d'été. Le puck à la fleur d'amour oisif. C'est plein d'enzymes lutins qui sèment du chèvrefeuille sur une mousse juvénile. Et les elfes, ça décrasse sans laisser de traces.
Moi, j'utilise plutôt puck citron. C'est une merveille. On peut dire merci, William, pour ce sortilège. Vraiment, un mini-pack de puck et plus rien de puck dans la kitchen.
William, c'est le génie qui a su créer pour chacune des pièces un parfum différent. Pour la salle de bain, Ophélie, à base d'iris d'eau et nénuphar. Pour le boudoir, c'est Tello, parfum vénitien et mauresque que le monde vous envie.
For sure, ça rend terriblement jaloux l'eau Tello. Moi, dans ma chambre, j'ai compte d'hiver au vétiver. C'est œillet et muguet, mesure pour mesure.
Sans oublier, in the Danish kingdom, en coupelle, un pot pourri de pétales, de zeste et de cannelle.
C'est vrai, c'est un subtil mélange. Et ça sent vraiment quelque chose, le pot pourri au royaume de Danemark.
Au laboratoire Shakespeare, William, c'est le nez.
C'est normal, il est né à Stratford sur savon.
Elle passe ses nuits au Shakespeare pour chasser l'odeur qui transpire, la groupie du fleuriste. Dieu que ce parfum persiste, aérosol de chimiste, la groupie du droguiste. Elle balance ses fragrances en l'air. La couche d'ozone, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien y faire? Du globe, elle joue la comédie. William lui jette des roses. Pour ses dents, elle la brosse tendre. Au dentifrice, parfum coriandre. La groupie du dentiste. Mâchant son bâton de réglisse, elle rêve de l'orthodontiste. La groupie du dentiste. Elle le croquerait jusqu'au molaire pour ses sonnets à l'eau de rose. Sur William, elle fait un transfert. Elle est bipolaire, la lady, parfumée à la névrose. Elle aime, elle adore, jusqu'au chrysanthème, son parfum extrême. Elle m'aime, Déodore, c'est bon la verveine, c'est fou comme tout baigne.
On s'est un peu exigeant quand même, Shakespeare, mais là on a révisé et on y reviendra plus tard. Et on saute de Shakespeare à Kawabata. 3 siècles et demi, même presque 4, et puis c'est un bon géographique également. Et peut-être il y a la même fureur quelque part. J'ai choisi une phrase de Kawabata, qui est le titre d'un de ses romans. C'est le grondement de la montagne. Et j'ai trouvé que dans le grondement de la montagne, il y avait des possibilités homophoniques à peine cachées. Et j'ai imposé cette phrase, le grondement de la montagne, à Patrick Beignet, Odile Conseil et à Lucas Fournier pour écrire des histoires homophoniques. Donc le début, c'est le grondement de la montagne. Ensuite, ils racontent leur histoire. Éventuellement, ils passent par une homophonie intermédiaire. C'est pas obligatoire. Tout le monde sait ce qu'est une homophonie. On est un normal sup. Ça va ?
Bon, surtout pour les mathématiciens, là, c'est sûr.
Peut-être pour Léonard, non ? C'est bon, Léonard ? Et après, bah, la chute doit être homophonique. Et en principe, on garde la meilleure pour la fin. C'est plus chic. On va commencer avec Patrick Beignet. Patrick, le grondement de la montagne.
Le grondement de la montagne fit violemment trembler ma cousine Angélique. Et moi aussi, je dois l'avouer, malgré l'air pharo que j'avais essayé de prendre. C'était un grondement dense, terrible, inoubliable. Le père d'Angélique, qui était brigadier, essaya de rassurer sa fille en faisant des grimaces amusantes et en remuant ses grosses moustaches de brigadier d'opérette. Angélique parut se maîtriser et retrouver son calme. Pourtant, ce n'était qu'un répit de surface, et en réalité, rien ne fut plus pareil dans les temps qui suivirent. La gracieuse, la frivole Angélique, qui n'avait pas encore 20 ans, devint une jeune fille grave et même austère. Quelque chose d'obscur persistait dans son regard, autrefois si limpide. Que s'était-il passé ? Certes, le grondement de la montagne avait été particulièrement violent et brutal, mais en quoi avait-il pu toucher des zones si profondes de la sensibilité de ma cousine Angélique ? je ne comprenais décidément pas. Je n'appris la vérité que des années plus tard, par hasard, et dans des circonstances dont je dois taire le détail. Un médecin, le docteur F, me confia que, des années avant le grondement dont nous parlons, ma cousine avait connu un traumatisme grave qui avait accompagné un autre grondement dans la montagne, car il y a beaucoup de grondements dans la montagne. Dans un club de vacances, elle se promenait sur la plage quand son regard avait été attiré par une sorte de monstre, un fou, visiblement, obèse et très légèrement vêtu. Imaginez l'effroi d'Angélique lorsqu'au moment même où retentissait le grondement de la montagne, elle vit le gros démon ôter son pagne.
Oh. Ah, très, très joli.
Ah bon?
Ah bah, je ne parle pas du spectacle qu'elle vit, mais de l'homophonie, le grondement de la montagne, le gros démon...
ôter son pagne.
C'est somptueux. Écoutez. Non, j'insiste, oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Vrai. Bah oui, oui, oui. Alors, c'est au tour d'Odile Conseil. Odile Conseil, c'est... avec Gérard Mordia, disons, ce sont les deux militants de choc de l'équipe des Papous dans la tête. Donc je suppose que vous avez écrit une histoire militante, non? Je me trompe?
Disons que la campagne ici est politique.
Ah ben vous voyez. Oui.
Le grondement de la montagne s'amplifiait dangereusement. Quoique chaussé de croquenots aux épaisses semelles, le candidat se sentait dans ses petits souliers. Il se rappelait avoir entendu des histoires d'orage terribles par ici. La présence à ses côtés de son assistant, un jeune qui n'avait dû voir la montagne qu'en photo sur le calendrier des postes de sa grand-mère, ne contribuait pas à le rassurer, même si le jeune, comme il l'appelait, portait un parapluie, au demeurant inutilisable, le candidat imaginait déjà la foudre se précipiter avec volupté sur la pointe métallique du parapluie. Pensez à changer de jeune, se dit in petto le candidat, avant de se rappeler que le père dit celui était un poids lourd du parti et qu'il n'avait pas dû beaucoup insister pour imposer sa progéniture au siège, qu'il l'avait refilé au candidat comme si c'était un cadeau. Pensez alors à prendre un ciré et un béret, poursuivit-il toujours in petto. C'est bien ça, un béret, ça doit plaire à l'électeur. Le jeune, dans ses mocassins à pompons, pensait, in petto également, que la politique, ce n'était finalement pas du tout ce qu'il croyait. En outre, il réalisait que le candidat qu'on lui avait fourgué était un rebelle, qu'il tenait des propos critiques sur la direction du parti. Il faudrait qu'il en parle à son père. Et il entendait avec un malaise grandissant le candidat faire des promesses aux uns et aux autres. Aux bergers, la promesse de protéger les troupeaux, aux écolos, celle de protéger les loups, aux loups, celle de... Non, il n'avait rien promis aux loups. Mais quand même, se disait in petto l'assistant, le frondeur ment dans la campagne.
Ah, ouh.
C'était l'intermédiaire.
Il y en a une autre.
Ah, le frondeur. Vous en aurez une deuxième pour le même prix.
Elle sera aussi bien?
Certainement, encore mieux même. La montagne à présent tonnait, la tempête roulait les airs en tous les sens, décoiffait les moutons, agitait furieusement les clarines des vaches et faisait trembler l'assistant qui venait de se faire arracher son parapluie par un puissant revers d'éole. Le candidat s'en voulait intensément d'avoir accepté que le parti le parachute dans cette circonscription où les bêtes étaient plus nombreuses que les électeurs, la nature sauvage, les villages perdus, les cabanes de bergers à des kilomètres de rocailles les unes des autres. Au fond, la nature l'emmerdait. Il en venait à regretter le porte-à-porte dans des barres d'immeubles sordides de la précédente campagne. Au moins là, on était au sec. Au moins là, on pouvait rencontrer 200 électeurs en 2 heures. Ah, si seulement il n'avait pas perdu. Et puis le jeune là qui se désespérait de voir sa mèche dévastée par le vent, le jeune qui commençait à geindre qu'il avait froid, qu'il avait faim, qu'il était en train de ruiner ses mocassins, qu'il vaudrait mieux rentrer s'abriter, mais qu'avant ça il avait envie de soulager sa vessie. C'est comme ça qu'il disait, soulager sa vessie, et qu'il lui demandait de l'accompagner derrière le rocher là-bas pour que personne ne le voie, alors qu'il n'y avait personne à des kilomètres à la ronde. C'en était trop. Le candidat explosa. La décence interdit de reproduire ici les propos qui furent tenus à ce moment-là. Sachez seulement que ça se terminait ainsi, et ce n'était pas in petto. Monsieur veut ci, monsieur veut ça, monsieur veut lansquiner, et en plus, t'as le front de demander que je t'accompagne.
Oh. Le grondement de la montagne, t'as le front de demander que je t'accompagne. C'est pas mal, hein? Oui. Bah oui, on nous a dit que les Lyonnais étaient tellement chaleureux. C'est vrai ?
Prouvez-le.
Lucas Fournier, quel genre d'histoire ?
Et ben pour vous réchauffer, on va aller en Russie. Voilà.
Et c'est un poème ou de la prose ?
Non, c'est un poème.
Ah, chic.
Le grand banc de la montagne, c'est l'Oural. Les grands monts de Russie, en un long chant choral, disent qu'à Pétersbourg, au palais, on se plaint. La grande Catherine épuise son trop-plein d'amants, les vigoureux, les jeunes et les vieux. Pas un ne peut tenir le tempo impérieux que l'ogresse des sens impose à ses montures. Il lui faut chaque jour d'autres candidatures. L'amant insuffisant est vite zigouillé. Le russe, en général, n'est pas poule mouillée, mais risqué à la fois et la tête et la queue. On n'y tient pas vraiment du côté des cosaques. Puisqu'elle ne trouve pas de grands fougueux sauvages, Catherine décide d'en faire l'élevage. On prend 100 militaires, les plus rudes à l'effort. On les lave, on les dresse, on excite leur corps, les dames de la cour les mettent dans leur lit pour voir s'ils sont ardents et si tout est joli. On choisit le meilleur, il se prénomme Igor. Et dans la performance, il bat tous les records. Sous ses reins, tous les jours, il étreint 20 pucelles. En tout point, il excelle et sa lame étincelle. Les suivantes entre elles en disent des merveilles. Il est le miel, Igor, Catherine et l'abeille. Mais la reine et la reine, 20 fois, il m'en faut 100. On rajoute des vierges dans le lit du soldat. Il se remonte à coups de grands verres de vodka. Mais à 60, hélas, notre homme est en coton.
Bah.
Moins vif, moins fort, moins dur, moins long. Enfin bref, c'est moins bon. Infini dans ses vœux, borné dans sa nature, l'homme est toujours un homme, et sa grande mature s'affaisse par moments quand le vent est tombé. Alors vient la revanche pour le mari trompé, Sergueï Vassilievitch, vieil amant de la reine, apprend avec bonheur qu'Igor est à la peine, il accourt à la cour, se rend chez la tsarine, et lâche triomphant d'une voix vipérine, « Madame, le rendement de l'amant stagne. »
Patrice Delbourg, c'est l'homme au chapeau, et toujours un petit peu chafouin. Chafouin, c'est un de ses mots préférés. Si vous êtes écouteur attentif des Papous dans la tête, vous savez que chafouin et Patrice Delbourg sont associés.
Mais ça a été un des mots favoris du patrimoine récemment.
Absolument, c'est un des mots qui figure cette année dans les 10 mots de la langue française.
J'en suis pas peu fier.
Ah, ouais. C'est grâce à Patrice Delbourg. Ah, oui. Et Patrice Delbourg, il a des mouvements d'humeur. C'est pas toujours quelqu'un de commode. Parfois, il est relativement injuste, voire de mauvaise foi. Et ça va être un de ces moments-là que je vous propose. Vous êtes contre quoi, Patrice ?
Les poussettes et les landaux. Et celles qui les dirigent.
Ah, tout ça. Les jolies mamans.
Oui, qui peuvent être des origes virago, parfois.
Bon.
Un véhicule blindé bleu marine fonce sur moi, capote baissée. Un tank rose bonbon me ratiboise les rotules. C'est l'invasion matinale des landaux biplaces sur les trottoirs de la cité. El Alamein sur Macadam, Stalingrad sur Bas-Côté, la bataille des Ardennes sous abribus. Ces couffins ambulants transformés en engins de mort sont pilotés par des viragos en robe de chambre qui vitupèrent le badaud avec des accents de poissarde. Des mammifères en chignon qui s'époumonnent à la ronde. Place, place, c'est l'avenir qui passe. Tu vois pas que tu gênes l'ancêtre. Allez, ouste, laissez le passage à la relève. C'est la grande razzia des autochnies gorgées de bébés fangeux dans les rues de la ville. Les tourelles me braquent, un biberon m'éborgne. Les petits salés brament à l'agonie dans l'habitacle. Exit les cannes anglaises, les béquilles, les déambulateurs, des seniors. Les fauteuils roulants, des croulants. Place à l'armada des vermisseaux saucissonnés dans leur lange waterproof. La layette, nous voici.
Oh. Oh.
Des potrons minés, c'est l'envahissement méliqueux des half-tracks, de la marmaille en route vers les crèches municipales et les stop-garderies. Les origes de l'apocalypse poussent devant leur ventre, déjà mûrs pour un second service, leurs machines cuirassées contenant le veau d'or en chaussons, plus le Saint-Sacrement en grenouillère avec des airs de Mater Dolorosa. C'est tout un quattrocento militaire, braillard et nauséabond, qui vous emboutit les tibias. Voilà le bulldozer Caterpillar en tenue de camouflage, le Panhard AML 60 en couche, le Panzer Teuton en baby gros. Des bolides amphibies au blindage constellé de vomi séché me tombent sur les chaussures. Mais que croient-elles ces récentes accouchées, ces vestales hystériques du Yupala? Quelles sont les premières sur cette planète à s'être fait cloquer dans un coin cuisine et à engendrer un petit gigot vagissant? Une nacelle pneumatique me percute le plexus. L'armature métallique d'une poussette me perfore le nombril. C'est Pearl Harbor sur nos derniers passages protégés. Je vous salue, Marie. Je vous salie, Marie. Comme disait ce poète qui n'aimait que les cancres en blouse grise. L'asphalte appartient désormais au marâtre des bacs à sable. Pas de quartier. Taillot, taillot, taillot. Tous les landaux à l'assaut du Landerneau. Un triplace caparossonné fond sur mes joyeuses. Le dernier modèle à capuche pliante, suspension intégrale, harnais de sécurité, pliage avec double sécurité au guidon, frein arrière, monoaction, grand panier à provision, tablette garde-corps amovible et repose-pied. Un trio de lardons effrayants, angelot bouffi, Jésus à quatre sous, sac à bouillie, crapaud écarlate et géniard, gesticule à la proue du dracard. Hier encore par un matin maussade, sur une mince lampe de goudron laissée à disposition des infortunés piétons, près de la caserne des pompiers, une mégère rouquine, harnachée comme un mameluc, me bouscule dans le caniveau avec sa poussette hérissée de hochets et de crécelles transformée en char d'assaut. À l'issue d'un ultime pas de côté pour éviter la collision frontale, je me penche sur le couffin et je lui fais remarquer, avec beaucoup d'aménité, que le nouveau-né qu'elle transbahute est en celluloïde. Et comment, me répond-elle comme si elle allait me gifler, par un temps pareil, vous ne croyez pas que je vais sortir le vrai?
Alors là, le monde se divise en deux, d'accord, pas d'accord. Lucas Fournier, est-ce que vous voulez bien répondre à Patrice Delbourg et au nom de qui?
Du bébé.
C'est vous le bébé?
Je suis l'enfant, le tout petit, le minuscule, un gigot babillant et qui vous enquiquine. Vous pesez 100 kilos et moi je vous bouscule. Ne me bazardez pas comme dans Potemkin. Recevez, gros monsieur, mes excuses authentiques si mon petit landau trouble la République. Je suis l'enfant. Je crois que l'homme est juste et bon, que le monde est gentil, que chacun est mignon. Je ne sais pas les mots et je n'ai que des cris. Je suis moins éloquent que monsieur Lucchini. Vous dites virago, mameluc, aménité. Je fais arre, arre, espérant la tétée. Je suis l'enfant. Mon berceau, c'est mon tout, mon toit. Ma cuirasse précaire, ma fragile capote contre vos postillons, vos miasmes et vos gros doigts, votre haleine virile, le vent et puis la flotte. Mon landau, c'est mon œuf, mon ultime coquille. La vie est un bowling et je suis une quille. Je suis l'enfant, celle que vous nommez mégère. Elle est unique et belle et surtout, c'est ma mère. Avez-vous lu Camus, monsieur Latrabilaire? Pour vous le résumer de façon très sommaire, il dit qu'on doit aimer avant tout sa maman. Ça vaut le prix Nobel, indubitablement. Je suis l'enfant. On dit que j'ai le nez du frère, le menton de la tante et les yeux de l'aïeul. Je ne vois rien dans ce berceau qui exaspère que le bout de mes pieds, humblement, sans orgueil. On m'a mis dans la bouche un bouchon de plastique. C'est hideux, c'est immonde, tétouille, synthétique. Je suis l'enfant petit, j'ignore les horreurs qui me guettent hors du lit. C'est un cocktail de choix. École, acné, McDo, galère et pôle emploi, désillusion, râteau, calvitie, Alzheimer. Un jour je serai vous, oh, grognon rouspéteur. Alors je voudrais bien grandir avec lenteur. Et pour vous consoler de mes débordements, je vous ai composé une ode, expressément. Il était un beau bonhomme, Rouspette le poète. Il était un beau bonhomme qui avait un drôle de talent, qui avait un drôle de talent. Son talent sur le papier, Rouspette la poussette. Son talent sur le papier, c'est détester les casse-pieds, c'est détester les casse-pieds. Il était un beau bonhomme, Rouspette le poète, il était un beau bonhomme, mais maintenant c'est terminé, mais maintenant c'est terminé.
Retour à Shakespeare, maintenant qu'on a un peu révisé, pour ce numéro des Papous dans la tête sur France Culture. Shakespeare, pour lequel il y a un personnage, un certain personnage de Shakespeare, c'est le mouchoir. Vous savez, le mouchoir dans la pièce Othello. Et le mouchoir, il a rêvé de choses grandioses et il se retrouve mouchoir, ce qui n'est pas très agréable. Donc, il écrit à Shakespeare. Et c'est Patrice Caumont qui nous raconte ça.
Cher Shakespeare, Willie dear, dans les rôles de mouchoir, j'ai essuyé bien des refus.
Oh, bravo.
Mais je ne t'écris pas en tant qu'intermittent pour quémander un rôle de figurant, essorer les larmes de Juliette, éponger le sang de Macbeth ou sécher la sueur au fond d'Hamlet. Si je m'adresse directement à toi et non à la production, c'est que je te trouve bien ingrat envers l'ami qui est à la source de ton inspiration. Avoue-le enfin, je suis le fil rouge de ton scénario. Sans moi, point de tragédie. Je mérite donc plus de lumière et de gros plans. Allons droit au but. Othello, c'est moi. Et ta pièce devrait s'intituler Othello ou le mouchoir de Venise. Car c'est moi, et moi seul, qui souffle à Iago l'idée de son sinistre complot. Je suis l'unique objet de fixation offert à Othello par sa mère. Il me passe à Desdémone, qui m'égare. C'est Emilia qui me ramasse, me donne à Iago, qui me saisit et me refile en douce à Cassio. Puis Iago me dénonce, Othello me réclame, Desdémone me cherche en vain et donnerait son royaume pour un mouchoir. De cette course de relais, je suis le témoin, le point fort, la preuve de trahison qui déchaîne la férocité du mort et détermine la mise à mort. Pas mal pour un mouchoir. Hélas, l'auteur est bien injuste avec son personnage. Je suis noué d'émotions et ce nœud au mouchoir devrait te rafraîchir la mémoire. J'espère que tu n'as pas oublié ma naissance. J'étais alors un orphelin indien, un grand foulard de soie, adopté par ta mère. Or, c'est bien ta mère, agacée par sa bru qu'un rhume des foins faisait renifler à tout bout de champ, oui, ta maman, qui d'un coup de ciseau fatal, telle la parque sinistre, m'amputa un jour de mon carré de soie, faisant de moi le dixième de moi-même. J'étais mouchoir, j'étais fichu. Être foulard et ne plus être mouchoir, voilà ma question. De châle soyeux, je suis passé à petit morveux. Je n'ai plus le physique du rôle, même si l'accessoirisme a bien ourlé d'une frivolité. Moi, au lieu d'être ce châle majestueux trônant sur les épaules d'une maharanée, je me retrouve en pince-nez, en essuie-tout, en torchon de turpitude, en serpillière à rhinite. Le mouchoir commence par fanfaronner en pochette et finit déshonoré en méprisable tire-jus. Moi, qui ne me mouche pas du pied, j'aurais pu faire le drap du spectre, ou même crâner dans Hamlet. Moucher n'est pas jouer, c'est manquer d'ambition. Être ou ne pas être mouchoir, c'est là la question. Tout drime n'est pas un crime, et je vous dis sur l'heure combien un vrai foulard a bien plus de valeur. Sur la scène pleine de bruit et de fureur, jalouse, je passe inaperçu, et là, ça me file le blues. Je préfère en crever, roupiller dans le formol, ou gamberger peut-être, avec un peu de bol. Du lacrymoire romain, je n'ai pas la fortune. Je dois aussi torcher la morve inopportune, ou essuyer l'affront des dédaigneux crachats. On me laisse tomber comme un galant appât. S'échoir pour un mouchoir, ce n'est point ridicule. C'est déchoir de n'être plus foulard qui strangule. Autant finir noué en vraie coiffe populaire, sur un front dégarni contre les coups solaires. Alors, cher William, c'est contre le dramaturge que je m'insurge. On ne peut pas se draper avec dignité dans un mouchoir de poche, et l'on manque d'éclat si l'on manque d'envergure. Je ne veux plus être mouchoir, même si ma petite taille m'offrait de brefs instants de volupté quand Desdémone me coinçait contre la tiédeur de son sein. Je veux redevenir ce foulard que j'étais. Alors, ne me traite plus en Kleenex, offre-moi un rôle à hauteur de mon talent. Les spectateurs adorent le jeu du foulard. Ta Desdémona ne sera plus vulgairement étouffée par le cirque-kiki du mort. Je l'étranglerai moi-même, avec élégance. Imagine un peu la scène. En maîtrisant mon rôle, je l'écharpe sans en faire trop. Je garrote sans être cabot. Je strangule avec la majesté d'un boa constrictor. Je t'assure qu'avec mon interprétation distanciée, je passerai à l'état d'arme sans état d'âme. Demande aussi à la costumière de teindre mon habit de scène, ce blanc du drapeau de capitulation, en incarnat, telle une muleta hispanique. J'exige aussi d'être en tête d'affiche et de venir saluer au final. Ce sera « As you like it, William », car je te le signale, j'ai passé un nouveau casting. Peut-être trouverai-je outre-manche le succès que tu me refuses. Molière me propose un grand rôle dans son Tartuffe. Cher Willy, je m'agite. Mais c'est la façon de dire adieu chez nous, les mouchoirs.
Est-ce que... Odile Conseil, vous seriez Shakespeare ?
Absolument, oui.
Et vous répondez au mouchoir, pas content. Il a raison, d'ailleurs. Il a raison.
Eh bien, en fait, oui, parce que donc Shakespeare lui répond, et comme il est Shakespeare, il écrit au mouchoir un sonnet, bien sûr, et comme il est Shakespeare, il parle avec un accent anglais. « Car d'être trop petit, ici tu me maudis, tu n'es plus qu'un mouchoir, tu te rêves foulard. Eh bien, c'est entendu, ok, je te grandis, et te fais, rouge vif, voyager dans l'histoire. » Lors des révolutions, tu claqueras au vent, avec les misérables, debout aux barricades, en tête de cortège, toujours et bravement, chantant des saïras, bien mieux que des obades. Beaucoup tu serviras, épuisé tu seras, roulé parfois en boule au fond d'un débarras. La pluie tu connaîtras, la peau on te trouera. Ce sera bien plus fort que d'être une muleta, face au pauvre taureau condamné au trépas. La passion, tu voulais ? Eh bien, yes, la voilà.
Ça vous va ? Ça vous va, monsieur le mouchoir ?
Ah oui, surtout au bad.
Ah oui.
Belle collection de lingerie.
D'accord. Et je crois que vous avez... écrit une chanson sur le mouchoir.
Oui, ouais. J'ai écrit une chanson, mais je pense que Gabi est beaucoup plus douée que moi pour la
chanter. Pour la chanter, en tout cas pour les aigus, oui.
Oui, c'est une chanson qui est très pointue, oui.
Donc c'est la vie rêvée du mouchoir, c'est ça ?
Absolument.
Mm-hmm. Pour un succès, je fais l'affaire. Je suis ramassée pour les amours. Je change souvent de propriétaire. Et d'Othello, j'ai fait le tour. De tout mon jeu, la pièce s'éclaire. De tous ces nez, je tire les vers. Je passe la moitié de la pièce à me taire. Entre deux portes et côté cour. Tenir la chandelle, c'est l'enfer. Je pourrais broder, ça je sais faire. Mais non, j'ai un rôle secondaire. Même le souffleur m'a dans le blaire.
Au moins es-tu sur scène.
Je suis pas sur scène, mais j'y prends l'air. Je suis tirju, c'est pas glamour. De la toux, je suis le cache-misère. Et moi, j'y suis pas de quoi être fière. À la troupe, je veux m'intégrer. Je fais pas le quart de ce que je sais faire.
Qu'est-ce que tu veux, mon vieux ? Sur la scène, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut.
J'aurais voulu être en Baptiste pour triompher dans Othello. C'est coton, mais l'on soit, c'est triste pour Desdémone ou même Iago. J'aurais voulu être un foulard pour jouer le rôle de ma vie. Jamais voulu être un mouchoir, ce petit chiffon où l'on s'essuie. Ce petit chiffon où l'on s'essuie. J'aurais voulu être un foulard encore plus rouge que le rideau. Tenir de la pièce le rôle phare, star de l'affiche.
Et avec Serge Ancourt, on va jouer au jeu des suppositions. C'est un jeu un peu badin, un peu léger, qui consiste à interpeller quelqu'un. Alors on lui dit « suppose que tu t'appelles », puis on imagine un nom qui sonne bien, et surtout qui est porteur et annonciateur d'un calembour en fin d'histoire, surtout. Et,
oui, oui,
et par ailleurs, culturel, si possible, le calembour.
Oui.
D'accord.
Oui, c'est dans la lignée du fameux hôtel-restaurant.
C'est-à-dire, je suppose que tu Quoi? T'appelles hôtel.
Hôtel, restaurant.
Ah, c'était suppose que tu t'appelles tel.
Oui, voilà.
Oui, d'accord.
Ouais. Oui. Alors, vous vous adressez à qui, là?
Eh bien, à Lucas, puisqu'il est
à côté de
là.
Vous.
Oui.
Lucas, suppose que tu t'appelles Léo.
Léo.
Oui, Léo, comme ton grand-père, Léo. Et donc, pour ne pas vous confondre, l'ancêtre, on l'appelle Léo Ier. Pourtant, il n'a rien d'un monarque, le pépé, puisque vous êtes, pour tout dire, des paysans, de braves bergers, 2000 moutons que l'été, il faut monter là-haut, Léo, à l'estive, soit à 1000 mètres de dénivelé. Et ces jours-là de transhumance, il va sans dire qu'il faut donner de la voix pour mener les bêtes. Seulement, comme Léo Ier traîne un peu la patte, on le met à l'arrière du troupeau, et toi, Léo II, jeune et fringant, eh bien, on te met devant. Et le troupeau monte comme ça vers les sommets, Léo Ier à l'arrière et Léo II devant.
Oui.
Seulement, à force de vivre un jour, l'ancêtre est mort, à 109 ans tout de même. Du coup, puisqu'il est mort, on ne peut plus le mettre à l'arrière, non. Léo Ier.
Non.
Alors, à la place, on y met le chat.
Le chat.
Oui, le vieux chat dans lequel il se serait réincarné. Parce que à la montagne, c'est comme ça. Les bergers ne meurent pas. Simplement, les âmes se baladent d'être en être, passant des hommes aux animaux, des animaux aux hommes. Ainsi vont les belles âmes d'être en être. Les belles âmes en lady, bien sûr, à force de réincarnation. Mais bon, toujours est-il que pour monter le troupeau, on doit toujours hurler pour mener les bêtes. Hurler, Léo. Ainsi... Quoi ?
Non, je vois pointer quelque chose.
Oh oui, mais enfin,
mais je peux me tromper. Hein.
C'était dans l'ascension, là.
Oui, je vous ai coupé
ainsi,
les pattes.
Ainsi, perpétuant cette belle vision de la campagne pérenne le matin de l'estive, toi, Léo II, comme toujours, tu hurles devant.
Ouais.
Et l'âme en lady du chat hurle, elle, mais à l'autre bout, si bien qu'à l'arrière. L'âme en lady du chat hurle et Léo II hurle devant.
Là.
Voilà. Vous avez le décodeur.
Il y en a deux. Je ne sais pas si vous les avez. Oui, vous avez
non,
les deux.
Non, moi j'ai senti venir Léo de Hurlevent.
Oui, mais
et
pas
l'autre.
L'amant de Lady Chatterley.
Voilà. Vous l'aviez vu, vous ?
Non, ah, c'est dommage.
Non, vous ne l'aviez pas vu ?
Redis-le peut-être.
Alors.
L'âme en Lady du chat hurle et Léo de hurle devant. L'amant de Lady Chatterley et Léo de l'Hurlevent.
Mais enfin, ah, non, même... non, mais j'aurais dû vous faire jouer aux homophonies, Serge.
C'est du même auteur.
Shakespeare.
Non, mais c'est très, très joli. C'est une histoire qui touche Lucas Fournier, ça. Ah, je oui. l'imagine très bien sur le chemin, là, suivant les moutons.
Oui, non, devant.
Et pas
devant.
Lady Chatterley, non. Non, moi, j'aurais pris Lady Chatterley plutôt que le mouton, mais chacun ses goûts, hein, Françoise.
Allez, vous êtes bien sur France Culture. C'est vrai qu'on est bien sur France Culture, non ? Avec les papous dans la tête et Shakespeare. Alors, on se cale profondément dans son fauteuil. Hein, ils sont bons ? Oui, ça va ? Et on va découvrir le roman interactif qui concerne Patrick Beignet, Lucas Fournier, Serge Joncourt, Patrice Caumont et Gabriel Godard pour la chanson. Je n'ai imposé qu'une seule chose à Patrick Beignet, le premier à écrire, je lui ai imposé le nom de Shakespeare. Il m'a dit « bon ». Et puis, il a écrit quelque chose. On peut écouter, Patrick, et d'abord, le titre du chapitre.
Pourquoi Shakespeare n'a pas écrit Madame Bovary ?
Ah, c'est une très bonne question, ça.
C'est pas une question, c'est une affirmation. C'est
ah,
une explication.
Bien. Ah, mais c'est important de dire qu'il y a un point.
Oui, et pas un point d'interrogation.
Oui, oui.
Le 23 avril 1564, à Stratford-sur-Avon, naissait William Shakespeare. Dernier de 8 enfants qui se ressemblaient de façon extraordinaire, William était le seul garçon. Tenant à ce qu'il reçût une éducation modèle, ses parents, en dépit de leurs revenus modestes, lui donnèrent une nourrice française. À l'âge de 3 ans, l'enfant décida de devenir romancier. Sous la coupe de sa nourrice, il hésitait entre deux sujets de roman, Madame Bovary ou La chèvre de Monsieur Seguin. Comme le savent la plupart d'entre vous, William Shakespeare ne parvint à mener à bien aucun de ces deux sujets, pourtant très intéressants. Et c'est seulement plusieurs siècles plus tard que des écrivains français, autrement doués que lui, nous pouvons le reconnaître sans nationalisme outrancier, menèrent à bien ces deux sujets. Pourquoi le petit William se détourna-t-il de ces sujets excitants ? Il semble que sa sœur Hilda en soit largement responsable. Hilda, belle jeune fille rousse d'une grande intelligence, suggéra à son frère de s'inspirer d'une chronique danoise du IXe siècle, l'histoire du prince Hamlet, pour en tirer un drame, car elle avait décidé que l'adolescent devait se consacrer au théâtre plutôt qu'au roman. Selon Hilda, le temps du roman n'était pas encore arrivé. Lorsque William mourut d'un gros rhume à l'âge de 15 ans, il laissait son drame presque achevé, et Hilda décida de faire jouer ce texte. Se déguisant en jeune homme et prenant l'identité de son frère disparu, elle se rendit à Londres où elle parvint à faire monter Hamlet au théâtre du Globe. Symboliquement, Hilda voulut jouer le rôle du fantôme, rôle bref mais intense, qui lui permettait de rendre hommage à la mémoire de son frère dont elle dérobait l'œuvre tout en la mettant en valeur. En quelques mois, le nom de William Shakespeare devint célèbre dans le Londres théâtral et les amateurs se pressaient autour du faux William en le pressant d'écrire et de jouer de nouvelles pièces. Quelle responsabilité pesait sur la pauvre Hilda ! En cédant un cahier de brouillon laissé par son frère, elle mit au point un autre drame qu'elle intitula « Macbeth » et dont le décor écossais fit sensation. Jouant elle-même le rôle, là ça devient compliqué, je demande votre attention. Jouant elle-même le rôle de Lady Macbeth, puisque les rôles féminins étaient à l'époque interprétés par des garçons, Hilda remporta un énorme succès. Tout le monde loua la féminité qu'elle parvenait à donner au redoutable personnage, finalement si peu féminin, de la meurtrière. Mais évidemment, personne ne savait qu'elle était en réalité une jeune femme. Le succès avait immédiatement imposé Hilda à la tête du Théâtre du Globe. Mais les responsabilités d'auteur, d'acteur, de chef de troupe, tout ça pesait très lourdement sur ses épaules fragiles. Se sentant déclinée, elle n'avait pourtant que 31 ans, elle fit venir de Stratford Evelyn, celle de ses sœurs cadettes, qui était la plus douée en matière théâtrale. En une scène pathétique, Hilda lui révéla les événements complexes que je viens de vous raconter le plus sobrement possible. Elle lui fit jurer de perpétuer cette tradition familiale et remit aussi à Evelyn le cahier de brouillon de leur petit frère dont, pensait-elle, il y avait encore des choses à tirer. Puis, paisiblement, Hilda Shakespeare rendit l'âme. Alors, trois possibilités pour poursuivre le roman que je vais passer à Lucas Fournier. Réussissant à garder secrète la mort de sa sœur, Evelyn prend sa place, toujours sous le nom de son frère William, et entreprend de tirer du cahier de brouillon une nouvelle pièce, Troïlus et Cressida, en se disant que c'est un moins bon sujet que les pièces précédentes. Deuxième possibilité, après plusieurs tentatives, Evelyn fait venir sa sœur Zelda de Stratford-sur-Avon et lui confie la mission de perpétuer le mythe de William Shakespeare. Quant à elle-même, elle se sent plus douée pour la peinture que pour le théâtre et elle part pour la Flandre où elle fait carrière sous le nom de Rubens. Et enfin, troisième possibilité, pendant plusieurs mois, Evelyn tente d'écrire une pièce à partir du cahier, mais elle n'arrive à rien. Elle finit par jeter ce cahier et c'est pour cette raison que, tragiquement, l'œuvre de William Shakespeare se limite à trois pièces. Quelle perte pour le théâtre. Bon.
Alors, le principe du roman interactif, c'est que le deuxième à écrire, en l'occurrence Lucas Fournier, s'empare d'une des trois hypothèses de suite possibles et se lance dans l'écriture à son tour d'un chapitre. Elles sont toutes trois très excitantes, Lucas Fournier, les hypothèses de Patrick.
C'est vrai, c'était une chance de pouvoir choisir.
Oui, alors.
Donc après avoir lu 7 fois le chapitre 1, j'ai pris la seconde hypothèse.
Oui.
Et j'ai intitulé mon chapitre 2, Pourquoi Rubens n'a jamais peint le radeau de la Méduse. Après plusieurs tentatives, Evelyne fait venir sa sœur Zelda de Stratford-sur-Avon, ou Upon-Avon, ça je oui. ne sais pas, et lui confie la mission de perpétuer le mythe de William Shakespeare. Quant à elle-même, elle se sent plus douée pour la peinture que pour le théâtre, et elle part pour la Flandre, où elle fait carrière sous le nom de Rubens. Dès l'âge de 3 ans, en effet, Rubens, qui s'appelait encore à l'époque Evelyn Shakespeare, avait décidé de devenir peintre. Sous la coupe de sa nourrice, elle, avait hésité entre deux sujets de tableau, le radeau de la Méduse ou les nymphéas. Comme le savent la plupart d'entre vous, Rubens ne parvint pas à mener à bien aucun de ces deux sujets, pourtant très intéressants, et c'est seulement 2 siècles plus tard que des peintres français autrement plus doués que lui, nous pouvons le reconnaître sans nationalisme outrancier, concrétisèrent ces beaux projets. Pourquoi le petit Rubens se détourna-t-il de projets aussi excitants? Il semble que sa sœur en soit largement responsable. Non pas sa sœur Hilda, celle qui avait écrit Macbeth après la mort de son frère William Shakespeare, l'auteur d'Hamlet et de Troilus et Cressida, saison 1. Non pas sa sœur Zelda, à qui avait été confié le soin après la disparition de Hilda de perpétuer la tradition de la tragédie et qui se lançait alors dans l'écriture d'Othello. Non pas sa sœur Camilla, dont il sera certainement question dans le prochain chapitre, mais bien sa sœur Diana, belle jeune fille blonde d'une grande intelligence. Alors William Shakespeare avait aussi une dernière sœur, Sarah, mais à ce stade du récit, nous ne sommes pas autorisés à en parler. Donc, Diana avait suggéré à Evelyn, alias Rubens, de peindre plutôt des œuvres religieuses ou antiques. Ainsi naquirent des tableaux assez réussis comme Persée délivrant Andromède ou encore Saint-Dominique et Saint-François préservant le monde de la colère du Christ qu'on ne présente plus et que l'on peut admirer au musée des Beaux-Arts de Lyon. Tout cela aurait pu très bien continuer dans ce monde shakespearien sans un hasard malicieux. Zelda, plongée dans la rédaction d'Othello, le mort de Venise, avait décidé de se rendre sur place pour se documenter. Au même moment, Rubens, donc sa sœur, quittait Anvers pour l'Italie afin de réaliser le portrait de Marino Grimani, qui fut, comme le savent la plupart d'entre vous, le 89e doge de Venise. Or, une grève des aiguilleurs de terre obligea chacune des sœurs à une escale forcée à Vérone. Et au même moment, Diana, leur sœur, débarquait dans cette ville. Elle avait aperçu au British Museum le portrait d'un certain Roméo Montaigu de Vérone. Elle en était tombée aussitôt éperdument amoureuse. Et elle s'était mise en tête de l'épouser. Ainsi, Zelda, Evelyne et Diana, sans s'être donné le mot, se retrouvèrent par hasard au Joyeuse Commère de Vérone, la meilleure pizzeria de la ville. Soudain, la porte s'ouvre. Diana reconnaît immédiatement le jeune homme du tableau. C'est Roméo. Il s'avance vers les sœurs Shakespeare. « Ne vous aurais-je pas vu déjà quelque part ?» Le cœur de Diana s'émeut. Rubens, enfin Evelyne, se dit que cet élégant jeune homme ferait très bien pour la composition d'un Adam et Ève qu'elle prépare. Elle envisage même, bien que n'étant pas Rembrandt mais Rubens, un rôle de figuration s'autoportraitant en tenue d'Ève aux côtés d'Adam. Quant à Zelda, toujours très professionnelle, elle note sur la nappe une idée de titre pour une nouvelle pièce, « One Gentleman of Verona ». Ne vous aurais-je pas rencontré à Londres, au Globe Theatre? Ne seriez-vous pas les 3 sœurs, insiste Roméo, qui n'a pourtant pas vu la pièce de Tchekhov, laquelle, comme la plupart d'entre vous le savent, ne sera écrite que 287 ans plus tard. Yes, we are, disent de concert Zelda, Evelyne et Diana. Ça y est, j'y suis, Macbeth. Vous êtes les 3 sorcières de Macbeth. Ah, le joli songe d'une nuit d'été avec Roméo s'envole pour Diana. C'est la tempête dans son cœur qui avait fait beaucoup de bruit pour rien. Il était son oméga et son alpha, Roméo. Elle se jette sur sa pizza Vivaldi, une 4 saisons, et sur une bouteille de Brumello de Montepulciano pour oublier. Mais la porte s'ouvre. 2 gentilshommes de Vérone s'approchent. Ils ressemblent terriblement au Roméo du portrait. Vous êtes 3 sœurs et nous sommes nous-mêmes 3 frères jumeaux. Et Roméo présente aux sœurs Shakespeare ses 2 frères, Rosencrantz et Guildenstern. Je ne suis pas Rosencrantz, fait le premier. Je suis Titus Andronicus, le commandant de la compagnie des gardes suisses de Venise, dépêché par le doge qui s'impatiente pour son portrait. Nous sommes venus à raisonner Rubens. Vous êtes perdu, la pizzeria est cernée. Et je ne suis pas Guildenstern, fait le second. Je suis Coriolan, le directeur du théâtre du Globe, et je suis venu de Londres chercher le mort de Venise que Shakespeare m'avait promise. Sinon, il n'aura jamais la monnaie de sa pièce. On est en pleine tragédie. Heureusement, 3 hypothèses.
Ouais.
La porte s'ouvre et apparaît Camilla, l'avant-dernière sœur de William Shakespeare. Et quelque chose nous dit qu'elle va résoudre la situation. Deuxième hypothèse. Désespérée, Diana renonce à l'amour et, puisque le nom de Shakespeare est déjà célèbre en littérature grâce à Zelda, puisque ce nom est déjà illustre grâce à Rubens, elle décide de se lancer dans la politique où elle se fera connaître sous le nom d'Henri IV. Troisième hypothèse, le prince du Danemark en visite officielle à Venise, mais lui aussi contraint à une escale technique à Vérone du fait de la grève des aiguilleurs de terre, entre dans la pièce. Il tient à la main le crâne de William Shakespeare et interpelle les trois sœurs, Roméo, Rosencrantz et Guildenstern, en leur demandant « What is the question ?»
C'est passionnant, Serge, non ?
Absolument.
C'est très excitant de recevoir ce roman et de devoir le poursuivre.
Oui, il y a très peu de personnages. tout est clair.
Il ne se passe pas grand-chose.
Il ne se passe pas grand-chose.
Tout est à imaginer.
Oh, oui, c'est formidable. Oui.
Alors, quelle option ?
Eh bien, pour tout vous dire, la troisième, celle qui me semblait la plus simple.
Ouais. Et le titre du chapitre.
Alors, le titre du chapitre, c'est pourquoi la pizza n'a-t-elle pas été inventée en Angleterre?
On va comprendre.
Peut-être.
Alors, rappelez-nous l'hypothèse que vous saisissez.
Alors, le prince du Danemark en visite officielle à Venise, mais est lui aussi contraint à une escale technique à Vérone du fait de la grève des aiguilleurs de terre, entre dans la pièce. Il tient à la main le crâne de William Shakespeare et interpelle les trois sœurs, Roméo, Rosencrantz et Guildenstern, en leur demandant « What is the question ?» Bon, je veux dire, tout ça est tout à fait clair.
Non,
j'ai fait espagnol première langue.
Alors,
tous furent saisis, non pas tant par la question elle-même que par l'intonation étrange du prince. Tout le monde en resta quoi ? Il faut dire que l'attention était à son comble ce soir-là, dans la petite salle des joyeuses commères de Vérone, d'autant que l'afflux sans cesse régénéré de tous ses protagonistes, vous l'aurez remarqué, faisait qu'il y avait de plus en plus de monde et d'une certaine façon de plus en plus de clients dans ce commerce et donc d'une certaine façon de plus en plus de personnages dans cette pièce. Du fait même de cette affluence, le four à bois tournait à plein régime pour enchaîner les commandes. Autant le dire, dans la petite trattoria, les clients cuisaient au moins autant que les pizzas.
Oui.
Hamlet, fraîchement débarqué des contrées septentrionales du Jutland et encore galvanisé par ses puissants courants d'air de la Baltique, ne tenait plus sous ses vêtements. Il posa là, sur un coin de table, son épée et ce crâne qui lui tenait chaud. Mais surtout, il se défit de son duffelcoat et de sa polaire, emporté par le mouvement. Il ôta même cette toge idiote, bien que parfaitement saillante, qui lui donnait des airs de Laurence Olivier. Il se défit donc de tous ses habits superflus, jusqu'à se retrouver torse nu, oui, torse nu comme la Vénus au miroir d'Evelyne, alias Rubens, oui, je dis bien, la Vénus, car là, quelle ne fut pas la stupeur de l'assistance ? Qu'elle ne fut pas, osons le mot, le saisissement, pour ne pas dire l'effroi, voire le ravissement de voir que ce bel Hamlet qui se découvrait là devant eux offrait à leur regard stupéfié une paire de seins généreux et bondissants, une poitrine opulente et ferme au point d'entordre de désir, le pizzaiolo, et les deux en fait, qui en oublia ses calzones au feu et que les trois frères en restèrent bouche bée tandis que les trois sœurs elles-mêmes s'en étouffaient plus encore et que Roméo se pâma.
Ah non, mais il faut reprendre son souffle à un moment donné.
Non, mais oui, il y a de l'action. Je connais. Une femme, oui, Hamlet était bien une femme. Et quelle femme, puisque c'était Hilda.
Mais elle est morte.
Hilda, je vous dis, Hilda elle-même qui se cachait sous cet accoutrement prépolaire. Oui, Hilda, la sœur originale, Hilda, la mère de toutes les sœurs, celle qui, d'entre toutes, avait bien été la première à semer la confusion dans cette belle fratrie. Hilda, qui sans s'en rendre compte, aura posé les bases de ces odieux soupçons qui pèseront pour les siècles des siècles sur l'identité de son frère, autrement dit William, qui n'était autre qu'elle-même en la circonstance, mais sous les traits d'Hamlet.
Vous suivez dans la salle. Mais... Ça va ?
Oui, c'était bien Hilda, car non, Hilda n'avait pas rendu l'âme. Et même, vous vous en souvenez sûrement, Hilda fut bien donnée pour morte, oui, donnée, au plus, prêtée, disons-le. En fait, elle ne fut pas assez morte pour ne pas revenir à la vie 6 ans plus tard, au sortir de ce que l'on n'appelait pas encore à l'époque un prodigieux burn-out. Pauvre Hilda, d'avoir dû assurer l'écriture de tant et tant de pièces d'un coup, en plus d'être tous les soirs sur scène à enchaîner les rôles d'hommes et de femmes, aussi bien que de spectres, sans compter ses fonctions de directeur de théâtre et de chef de troupe. Cette surcharge de travail avait donc plongé la pauvre Hilda dans le plus total nervous breakdown, au point que son impresario avait organisé sa fuite vers une clinique du canton d'Appenzell et annoncé sa mort à toute l'Angleterre afin de se prémunir de la curiosité importune de ces gazétoïdes que l'on n'appelait pas encore à l'époque des...
tabloïdes.
Des gazettes. Au sortir de cette terrible retraite en Suisse, Hilda s'était sentie tenaillée par une très forte envie de civilisation et surtout par une féroce envie de vengeance, car tout de même, Evelyne, alias Rubens, n'avait pas tenu parole. Car oui, Rubens, alias Evelyne, l'avait trahi en n'ayant pas écrit une seule ligne du théâtre de son frère, alias elle-même. Alors qu'il s'y était engagé. Et voilà qu'en prime, Evelyne, alias Rubens, tombait dans les griffes de Titus Andronicus, alias Rosencrantz, le commandant de la compagnie des gardes suisses de Venise, dépêché par le Doge, qui réclamait son portrait, tandis que Zelda, alias William, se faisait déjà passer les menottes par Coriolan, alias Gilderstein, le directeur du théâtre du Globe, venu de Londres, chercher le mort de Venise que Shakespeare, alias Zelda, avait promise, sinon il, alias elle, n'aurait jamais la monnaie de sa pièce. Enfin, reportez-vous
au chapitre précédent, oui, voilà.
Au premier même. Alors, c'est alors qu'un puissant trio d'avocats mandaté par Plutarque, alias Francis Bacon, alias Christopher Marlowe, alias Jacques Ier d'Angleterre, surgirent, non pas pour commander des antipasties en brandissant un commandement de payer signifiant les arriérés de copyright en hurlant « God save the royalties », mais les pauvres, à peine eurent le temps d'entrer dans la pièce que déjà ils manquèrent de se faire embrocher par une lance ardente tenue fiévreusement par celui qui d'entre tous s'estimait le plus enfoncé dans cette histoire, Don Quichotte en personne, déguisé en Cervantes. « Je suis venu pour mettre le Sir Shakespeare en pièce. Où sont-ils, les toits frangines ?»« Pardon ? » ?»« Oui, quel est celui des Sir Shakespeare qui a soufflé au petit William que le temps du roman n'était pas encore arrivé ? Où est-il que je l'embroche ?»« c'est moi !» hurla Hamlet, alias Hilda, qui venait de revêtir sa polaire et son casque et qui d'avance défiait de son glaive ardent le chevalier à la triste figure. Sur ce, Don Quichotte brandit sa lance pour transpercer Hilda. Il balayait l'espace de son foudroyant ustensile, mais ne renversa rien de plus que des moulins à poivre. C'est terrible. Pardon, c'est... Sur ce, Cardenio, mis en pièces par William, alias Zelda, alors même qu'il était à vrai dire un emprunt, sinon un don de Quichotte. Oh, oui, Cardenio, donc, rentra dans la salle et en voyant Cervantes, il lui sauta au cou en lui criant « Maman !»
Ah bon ?
Sur ce... Oui, maman, oui, je vous... vous explique. Sur ce, le four explosa, tel un stromboli. Et pourtant, le pizzaiolo, noirci par les outrages de la déflagration en dépit de ce carnage, sautait malgré tout de joie dans les décombres de cette pièce en pièce. Et pour cause, il venait rien moins que d'inventer la pizza Volcano.
Avant de passer à l'épilogue avec Patrice Caumont, j'aimerais bien demander à Patrick Beignet s'il est satisfait de ce qu'est devenu son histoire, parce que c'était la vôtre.
C'était la mienne. Je trouve ça un peu linéaire, mais autrement, c'est bien.
Et on pourrait donner un titre au roman, Patrick ?
Je crois qu'il faut attendre l'épilogue quand même.
D'accord. Alors, soyons prudents, attendons l'épilogue. On se situe combien d'années plus tard, Patrice Caumont, ou c'est juste après ?
C'est juste après, c'est simplement le dévoilement.
Oui.
Parce qu'il y a un suspense qui est presque intenable.
Ah oui, mais là, tout a explosé. Hein.
on peut croire.
Ah, c'est pas sûr. Ah, c'est comme la mort d'Hilda.
Ben, tout explose sauf la vérité, toujours. Donc,
oui.
Non, mais là, on a vu la naissance d'un genre.
Oui.
Et ce qui est, avec Cervantes, et même un peu avant lui, le roman pizzaresque. Et il est vrai que le roman pizzaresque est un genre à part entière, pas toujours commode à suivre, qui peut accumuler des chapitres et qui est en général très pimenté. Et dans ce récit, plein de bruit et de furie, narré par un fou, comme dirait Shakespeare, enfin, que dis-je, par trois fous, tout semble plausible, voire historiquement possible. Sauf peut-être un léger écart dans la véracité historique que je voudrais souligner. Ce n'est pas avec la Volcano que le pizzaiolo Antonio Vivaldi se fera un nom, mais avec la Quatre Saisons. Pour rétablir de temps en temps des...
Oui.
Alors, comme diraient Vicky Baum et Wikipédia, l'inconscient est structuré comme une pizza. Et le passage à l'acte, surtout au dernier, juste avant le tombé du rideau métallique de la pizzeria, est plutôt violent. Hamlet a beau crâner, il manque de sang-froid, et Don qui chuchote a plutôt le sang chaud. Dans cette scène capitale au sens Henri VIII, les personnages perdent la tête, difficile de trouver le coupable quand les grandes lignes sont coupées. Le pizzaiolo, la servante, Tess, Troilus, Cressida, tout le staff de la pizzeria, et même le Falstaff, sont autant de suspects. Shylock n'est pas Sherlock. Mais tout de même, il y a un détail qui cloche. Où est donc passée la paella de Cervantes? Là était la question. Et la réponse nous sera donnée par les sœurs Bronte, qui désormais démasquées vont pouvoir enfin nous livrer la pizza et leurs secrets. Car ce sont elles, mais oui, bien sûr, Charlotte Bronte, alias Hilda, Émilie, alias Evelyne, et Anne, alias Zelda, qui étouffèrent le talent du jeune William avec une calzone et desdémoniaque, avant de publier sous leur pseudo Faust et Margherita, les Capriciosa des Marianne, ou encore ces mozzarella qu'on assassine.
Alors, Patrice Caumont, un grand roman mérite une grande chanson, et c'est vous qui avez écrit la chanson du roman.
Oui, mais qui méritait une grande chanteuse.
Eh oui, c'est Gabrielle Godard qui la chante.
Leur histoire, c'est l'histoire cuite au four. La pizzeria joue la pizza aux trois sœurs. Un roman pas comme les autres, un évangile sans apôtre, plein de bruit et de fureur. C'est un drame où la trame semble brûler. Si ce n'est toi, c'est donc ta sœur, vieux Shakespeare. La vraie Milady Macbeth, l'auteur de Porgy and Bess et de Madame Bovary. La pizza, c'est un peu mince, surtout la véronaise. Ça renverse tous les Rubens, pas la mayonnaise. Hilda la Bruce, Zelda la Rousse. Ce ne sont pas des femmelettes. Faut vraiment en avoir dans le crâne pour écrire le script d'Hamlet. Leur histoire, c'est l'histoire d'un naufrage. Pour la méduse, Rubens s'abuse, c'est pas de lui. Le naufrage, c'est du Caravage. Cette leçon vaut bien sans doute une vraie quatre fromages. Qui en est la poire? C'est William. Petite pizzeria au cœur de Vérona, petite pizza garnie d'anchois, c'est la bonne Hilda. Spectre d'Hamlet dans son drap et Roméo dans ses bras. De Willy le dauphin, c'est la sœur qui est pas vraiment de bois. Oh oh oh, oh la douceur de la peau, elle aime ça. Chez Troilus, chez la Cressida, le genre fait loi, c'est Roméo ou Giulietta. Y a pas de problème avec Hilda. Ah, et la pizza, elle en veut car elle adore ça. Pâte fine ou épaisse au choix. Ah, la pizza, être ou ne pas être aux anchois. La pizza.
Les Papous en public à l'ENS de Lyon, fin de la première partie. Une émission proposée par Françoise Tressard, équipe technique de réalisation Anne de Pelchin, Pierre Mine, Étienne Leroy, Gilles Manet, chargé de production Roland Dandalex. Une émission à podcaster pendant un an sur franceculture.fr pour une nouvelle écoute et pour vos archives de Papous en public. Et puis, rejoignez-nous sur Facebook entre amis pour échanger vos commentaires et voir toutes les photos. Comme nous sommes restés ensemble à l'Amphimérieux pendant près de 3 heures, rendez-vous dimanche prochain pour la suite de cet enregistrement avec les 10 mots du public pour des histoires, le petit rimailleur pour le bouchon et l'école.
Il est des écoles à Grenade, il en est à ses villes aussi. Où à la première incartade, on prend la porte et sans merci, il en est où l'on se prélasse sans jamais être bachelier. Enfin, voici les keufs qui passent, cachez vos joints sous le tablier. Enfin, voici les keufs qui passent, cachez vos joints sous le tablier.
Au menu également, la partie des experts contre Faussaire, un très grand écrivain choisi pour ce jeu par Patrick Beignet. Des experts pointus, Patrice Delbourg, Serge Joncourt, et des faussaires fins, pasticheurs, Patrice Comon, Odile Conseil et Lucas Fournier. Au revoir, passez un bel après-midi en bonne compagnie sur France Culture.
Quoi, quoi? Ah!